Un roi vieillissant était inquiet pour son royaume. En effet, sa vie se terminait et il n'avait pas de fils pour lui succéder. Il décida donc de faire paraître un avis dans tout le pays promettant son trône à celui qui remporterait une série d'épreuves. Des milliers de jeunes garçons arrivèrent des quatre coins du royaume pour se soumettre au défi lancé par le roi, espérant ainsi ceindre la couronne. Le défi consistait en de nombreuses épreuves physiques et intellectuel. Un roi, il vaut mieux. Après 3 mois, il ne resta plus que 10 garçons en lice. Le peuple entier se demandait quelle épreuve allait bien pouvoir les départager. Le roi fit venir les 10 garçons dans la salle du trône et leur dit « La ressource principale de notre pays est l'agriculture. Il faut donc que mon futur héritier sache planter et prendre soin de ce qu'il plante. Je vais donc lui donner à chacun une graine de maïs et vous devrez en prendre soin pendant 3 mois. » Passé ce délai, vous reviendrez vers moi et je prendrai comme successeur celui qui aura su le mieux veiller sur sa graine. L'un des garçons revint chez lui, planta la graine dans un bac rempli du meilleur terreau. Il l'arrosa, lui prodigua tous les soins possibles, mais rien n'y fit. La graine ne poussa pas. Ses parents lui conseillèrent d'aller acheter une autre graine, certainement que le roi n'y verrait que du feu. Le jeune homme refusa cette idée et décida d'assumer son échec devant le roi. Le jour fatidique arriva où 9 des 10 garçons se présentèrent avec un plant de maïs en fleurs. Le roi les passa tous en revue sans dire un mot et finit par s'arrêter devant le malheureux garçon qui se présentait devant lui, pleurant et les mains vides. Que s'est-il donc passé ? Lui demanda le roi. « Je ne sais pas, Majesté, j'ai veillé et pris soin de ma graine du mieux que j'ai pu. Mais rien n'y a fait, rien n'a poussé. Je suis profondément désolé. » Le roi, s'adressant à son peuple réuni sur la place, dit « Mon peuple, voici ton futur roi. » Et le roi d'inviter le jeune homme à le suivre et à prendre sa place à sa droite. Une rumeur courut parmi la foule. « Comment est-ce possible ? Le roi a choisi le seul qui est échoué. » Mes amis, dit le roi, chacun de ces garçons a reçu une graine de maïs bouillie. Elle n'aurait donc pas pu pousser. Il ne s'agissait donc pas d'être capable de faire pousser quelque chose, mais bien de posséder une qualité indispensable pour pouvoir régner et être un bon roi, à savoir être authentique. L'authenticité n'est pas seulement une qualité dont les dirigeants de ce monde devait être pourvu, mais également une valeur que notre Église veut vivre dans ses relations avec Dieu et les autres. Et je vous remets donc pour commencer en mémoire cette petite phrase qui se trouve sur le site internet de notre Église et qui ouvre à cette dimension d'authenticité, hein, pour vous rappeler ce que notre Église entend par être authentique. Nous préférons toujours la lumière, même si elle fait parfois mal aux yeux. Cette petite maxime pose donc une question. À quoi préférons-nous toujours la lumière ? Ben, aux ténèbres, bien sûr. En clair, cela signifie que nous préférons toujours la vérité aux mensonges, même si parfois la vérité est dure à entendre. L'authenticité a donc tout à voir avec la vérité. Ne parle-t-on pas d'ailleurs d'amour authentique, sincère, fiable, vrai, ou d'une amitié authentique ? D'une œuvre authentique faisant référence à l'identité de son auteur, ou encore d'un témoignage authentique, vrai, sans trahison ni altération de la vérité. Être authentique, c'est donc dire la vérité à soi et à l'autre. Et cela étant, on peut quand même se poser une petite question, de quelle vérité parle-t-on ? Parce que de nos jours, des vérités, c'est pas ça qui manque. De quelle vérité parle-t-on ? Celle que dispensent de nombreuses émissions de télé-réalité, prétendant que pour exister et réussir sa vie, donc la vérité de la vie, reviendrait en fait à paraître et non plus à être. Il suffit de paraître pour exister. Ou peut-être s'agit-il de la vérité que dispensent les politiques du haut de leur mandat. Ou encore peut-être celle des livres et autres romans comme l'un des derniers d'Amélie Nothomb, qui remonte à 3 ans, hein, le fameux roman « Soif » où elle parle de son expérience de Jésus, comment elle le voit. Un Jésus selon ce qu'elle conçoit, selon sa vérité à elle. Peut-être encore la vérité est-elle en lien profond avec les informations de nos journaux télévisés ou de toutes les publicités qui nous inondent quotidiennement. Toutes ces vérités ont un point commun, elles sont essentiellement subjectives. Tout comme notre vérité, même si nous ne nous en rendons pas compte, peut simplement se limiter à ce que je pense, ce que je ressens, et dans ce cas, pour nous aussi, enfants de Dieu, la vérité serait donc subjective, liée à ce que je suis par nature, ou par éducation, ou par héritage familial, ou que sais-je encore. En opposition à toutes ces vérités, au pluriel, la réalité décrite par la Bible est celle-ci. Bon, c'est pas facile à entendre, hein, mais... Tout le monde ment, et se ment, parce que tout le monde est dans les ténèbres. Puisque la vérité a quand même quelque chose à voir avec la lumière, à partir du moment où ce monde, les hommes sont dans les ténèbres, ils ne risquent pas de percevoir grand-chose de la lumière. Les hommes, c'est ce que la Bible affirme, les hommes sont aveugles. Combien de fois Jésus ne dit-il pas aux gens qu'il croise, et en particulier à ceux qui prétendent posséder la vérité, « Vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles ». Les hommes sont aveugles et incapables de prendre conscience de leur état véritable. C'est ça la plus grande, le plus grand aveuglement. Et la conséquence de ça, c'est que le monde ne sait pas ce qu'est la vérité. Et ils s'interrogent de leur parfois, mais rarement, me semble-t-il, de plus en plus rarement, sur ce qu'elle pourrait être, sur sa substance, sur son origine. Bon, les philosophes réfléchissent encore parfois à ce que peut être la vérité. Un personnage strictement, ou tristement plutôt, célèbre, s'est lui aussi posé la même question. Rappelez-vous, qu'est-ce que la vérité ? Il s'agit de Pilate, bien entendu, quand Jésus lui est amené pour qu'il le juge. Pilate lui dit, donc Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus restait silencieux face à la question de Pilate. Il n'a pas répondu à la question de Pilate. Ce qui est étrange, moi, si j'étais en face de quelqu'un qui me pose cette question, en tant que chrétien, je tenterais de répondre. Jésus ne répond pas. D'abord parce que sa mission était d'aller jusqu'au bout de son amour pour l'homme. Il fallait donc qu'il soit condamné. Ce n'est donc pas le moment d'entamer un grand débat, mais il s'est également tu parce que pour Pilate, comme pour bon nombre de nos contemporains, la vérité est une question d'ordre philosophique dont on peut débattre, qu'on peut relativiser, car elle serait donc relative. Pour Jésus, la vérité est théologique, elle prend sa source en Dieu. Plus même, la vérité est une personne à laquelle on rend témoignage. Et cette personne, c'est Dieu lui-même. C'est pour cette raison, nous dit Jésus, qu'il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à quoi ? À la vérité. Pour le christianisme, la vérité est une personne, le Christ. Rappelez-vous, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Seul Jésus-Christ pouvait rendre ce témoignage à la vérité de Dieu, étant Dieu lui-même. Et seul le Christ, le Fils, pouvait rendre témoignage à la vérité de la paternité de Dieu. Dire au monde que Dieu est un Dieu Père, étant Fils de Dieu. Pilate avait la vérité devant lui. Il avait la vérité incarnée devant lui et il ne l'a pas reconnue. Il a préféré, en quelque sorte, philosopher. Alors comment est-ce possible, me direz-vous peut-être, comment peut-on philosopher alors qu'on se trouve en face de Dieu même ? Eh bien, je pense que tous ceux et celles qui rendent au témoignage, qui rendent au quotidien témoignage à la vérité, les chrétiens qui partagent leur foi, qui disent Dieu par leur vie et leurs paroles, sont confrontés à cette même réalité. Les hommes semblent hermétiques à la vérité. Pas à toutes, hein. On leur dit qu'un homme peut être une femme un homme, mais ils partent avec. Cette fausse vérité-là ne pose de problème à personne. Voici comment Paul aborde ce phénomène. L'explication que Paul donne à cette, entre guillemets, incapacité de l'homme à voir la vérité vraie. C'est un texte de l'Épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière ou la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. Les hommes, dit Paul, retiennent la vérité captive, la vérité avec un grand V, hein, par leur injustice. C'est-à-dire leur capacité à faire le mal et leur incapacité à le reconnaître parce que leur conscience, quoique parfois allumée par la morale de Dieu, est enténébrée. Pas de chrétien pour parfois faire des actes de bonté. La preuve ultime de cette réalité est manifestée par le refus de l'homme de reconnaître Dieu en tant que tel, ce que Paul nomme ici l'impiété, et d'avoir au cours de son histoire passée et présente continué à placer d'autres choses ou d'autres personnes à la place qui revenait de droit à Dieu. Ce qui a entraîné l'homme dans toute une série d'agissements condamnables, et on y est encore, hein, et ça va de mal en pis, et pour lesquels d'ailleurs les hommes sont condamnés par Dieu sans même en avoir conscience, c'est dire leur aveuglement. Le psaume 50 faisait déjà allusion à cette réalité. Si toi un voleur, s'adresse à des juifs mes amis qui sont supposés connaître Dieu, hein, rappelez-vous du fils aîné, si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Alors, pour quelqu'un qui croit en Dieu, qui possède la vérité, la bonne nouvelle quand il fait l'andouille, c'est que tôt ou tard, Dieu va lui passer les plats. Ça dit, maintenant ça suffit mon grand garçon, il va falloir qu'on parle. Et ce que je vais te dire ne va pas te faire plaisir. L'homme a du mal avec ça. On entend souvent des gens dire, oui mais moi je suis un mec bien ou je suis une femme bien et je fais du bien autour de moi et je fais du bénévolat et enfin tout ce qu'on peut entendre encore et toujours. Mais le fondamental, ce qu'il faut continuer à dire aux êtres qui nous entourent et que nous sommes supposés aimer, c'est que ne pas reconnaître l'existence de Dieu, ne pas l'adorer comme tel est le premier péché. Le premier péché de l'homme est la première et la plus grande des injustices. J'ai appelé ça à quelqu'un encore la semaine passée, un non-chrétien, qui a des enfants. J'imagine, tu te prépares un repas pour tes enfants quand ils rentrent de l'école, et puis ils rentrent, ils ne te disent pas bonjour. Ils disent bonjour les enfants, c'était pas une bonne journée. Ils ne répondent pas, ils montent dans leur chambre, ils descendent à l'heure du repas. Ils passent à côté de la table, ils se font un sort du chemin, ils laissent ce que tu as préparé sur la table, ils disent, vous ne mangez pas ce que j'ai préparé? Ils ne te répondent pas, ils retournent dans leur chambre, et comme ça, jour après jour, après jour, après jour, après jour, et bien c'est exactement ce que Dieu subit au quotidien de la part des hommes. Ne pas croire en Dieu, ne pas reconnaître qu'il est Dieu, c'est ce que Paul dit, hein. C'est le plus grand péché de l'homme, c'est le premier. Et c'est pour cela, pour ce péché-là entre autres, que les hommes passeront au jugement, indépendamment de leurs bonnes œuvres, s'ils en ont fait. C'est cette attitude qui retient la vérité captive. Et le terme grec est intéressant, c'est un terme qui fait référence au fait de garder ou d'emprisonner un prisonnier de guerre, ou de dompter un animal qui, par définition, est indomptable. Donc c'est quelque chose... Pour garder cette vérité captive, l'homme doit y mettre quelque chose. Hein. n'est pas une passivité de sa part. Il se bat intérieurement pour garder cette vérité captive, dit Paul. C'est pour ça qu'il est coupable devant Dieu. Il ne se laisse pas faire. Il dompte cet animal qui est lié quelque part à sa conscience. Et puis la deuxième dimension, l'homme qui vit dans le péché a tout intérêt, c'est du moins ce qu'il pense, ou ce que les difficultés, le tourbillon de sa vie lui suggèrent de retenir, il a tout intérêt à étouffer la vérité. Mais une fois qu'elle commence à le titiller, afin de s'affranchir de son emprise, car autrement, cette vérité ne laisserait pas sa conscience tranquille. Vous avez la vérité en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous. Combien ça prend de temps dans votre vie pour savoir que vous avez fait quelque chose que Dieu n'aime pas et pour être pas bien par rapport à ça? Combien de temps votre conscience vous laisse-t-elle tranquille avant de faire tilt? Normalement, pas longtemps. Comprenez? Ouvrir à la possibilité de Dieu est un risque pour l'homme. Dans un autre psaume, David dira encore avec force et clairvoyance ce que Paul, c'est intéressant, réaffirmera quelques mille ans plus tard. Psaume 53, je lis pour vous un verset. Vous connaissez, hein? L'insensé ou le fou, suivant les traductions, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous savez, il y a des textes dans le Nouveau Testament, pensez à un texte dans l'Apocalypse, qui dit que le jour du jugement, toutes les bouches seront fermées. Quand vous parlez de votre foi, des personnes vous disent, oui, mais Yves, tu sais, moi, s'il y a un Dieu, je m'arrangerai avec. Mes amis, personne ne va s'arranger avec lui. Vous savez pourquoi toutes les bouches seront fermées? Parce qu'ils seront face à Dieu. Et là, croyez-moi, ils n'auront plus envie de dire quoi que ce soit. Ça va être terrible. Autour des Hébreux, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Hein? Donc cette vérité gardée captive dont parle Paul est la même que celle dont Jésus parle à Pilate. L'existence de Dieu et les exigences morales qui en découlent. D'ailleurs, et c'est intéressant, Pilate dans le jugement qu'il rendra en condamnant Jésus après avoir reconnu lui-même qu'il n'y avait aucun motif à le condamner, manifestera par le verdict qu'il rendra que l'homme est bel et bien déchu de la vérité. Il ne pose pas un acte de vérité en condamnant un innocent, quelqu'un qu'il sait être innocent. Son acte de condamnation envers un innocent programme le fait qu'il est bel et bien perdu et qu'il est ignorant de ce qu'est la vérité. Au travers de ce jugement, il se condamne en fait lui-même. Imaginez Pilate devant le jugement, au jugement devant Dieu, avec le Christ à la droite de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui explique. Dans les faits, les hommes font volontairement prévaloir l'injustice sur la vérité. Ils étouffent, dit Paul, la vérité par l'injustice. Et ils empêchent par là même le germe de la vérité divine en eux se développer, comme notre semence de maïs, ma petite histoire du début. L'homme est en train de bouillir les semences que Dieu tente tous les jours de semer dans son cœur. Ce fut donc le cas pour Pilate. Lui aussi a gardé la vérité captive. Lui aussi a eu l'occasion, dans le simple exercice de ses fonctions, d'ouvrir la porte à la vérité de Dieu. Tout le monde, je dis bien tout le monde, a l'occasion d'ouvrir la porte. C'est une des vérités enseignées par la Bible. Cette vérité de Dieu est accessible par une révélation de Dieu, une intervention de la grâce en faveur de l'homme, par l'action du Saint-Esprit. C'est le sens de cette phrase dans l'Évangile de Jean. Quand l'Esprit Saint sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Petite remarque préliminaire, ce qui est très important de comprendre, c'est que le terme « convaincre » ici, dans la pensée de Jean, a une connotation juridique, un sens juridique. Lorsqu'un jugement est rendu par un tribunal, on déclare le prévenu coupable car convaincu de crime. Dans la Bible, ce mot a toujours un sens moral, intime, se réalisant dans la conscience, la personne face à ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait, cette personne est convaincue qu'elle a fait le mal, qu'elle a commis des péchés. Nos traductions françaises de la Bible traduisent d'ailleurs souvent par « reprendre » ou « être repris dans sa conscience ». Ce qui produit la conviction que nous ne sommes pas droits dans nos bottes. Quand un homme est ainsi convaincu de ces trois grands faits du monde moral, péché devant Dieu, justice divine, jugement éternel, il se fait en lui une crise par laquelle vous êtes tous passés, à ma connaissance, dont le résultat peut être la repentance et le salut, ou, et on revient à ce que Paul dit en Romains 1, ou l'endurcissement. Non. Un exemple d'endurcissement parmi d'autres qui est tiré du livre des Actes. Comme j'ai pas pris tous les versets, je vais les lire sur le diaporama. Quelques jours après, Félix, qui est préfet de la région à l'époque, et Paul est en prison, il a des problèmes avec les Juifs, il y a un problème dans le temple de Jérusalem, enfin je passe les détails du contexte. Ce fameux Félix appelle Paul, alors, probablement pour que Paul lui file une enveloppe, pour qu'il le libère, voilà, mais soit. Mais il veut écouter Paul pour sa défense. Et voilà. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te le rappellerai. » Félix est effrayé, comprendre, son cœur est ébranlé parce que Paul est en train de lui dire du jugement de Dieu. Il est donc tout à fait possible de résister à la révélation que Dieu veut faire de lui-même. Pourquoi ? C'est idiot de résister, encore une fois, à cette évidence de Dieu. Eh bien, toujours l'évangile de Jean, parce que toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. C'est ce que Jean dit en chapitre 3. Qu'est-ce que la vérité ? C'est donc d'abord la révélation d'une personne, Dieu au travers du Christ. Et c'est aussi l'évangile. Celui que nous sommes supposés proclamer. C'est la main tendue de Dieu à l'homme. C'est aussi la révélation d'une parole. On va prendre ce texte, si vous voulez bien. C'est l'introduction de l'évangile de Jean. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. La parole s'est faite homme. Alors cette parole qui s'est incarnée pour venir vivre parmi nous et nous annoncer la grâce et la vérité de Dieu disponible pour chaque homme, c'est bien entendu le Christ. Et Jean utilise un terme bien spécifique pour nous dire que Jésus, la parole de Dieu, a habité parmi nous. C'est le verbe grec skeno. Vous êtes content, hein? Ce verbe signifie littéralement, si je dois reprendre l'analogie biblique, littéralement tabernacler. De tabernacle, rappelez, ça vous dit quelque chose le tabernacle ? Autrement dit, habiter sous une tente. Et qui habitait sous une tente pendant pas mal de temps, avant qu'on lui construise un temple ? Dieu, autrement dit, Dieu a dressé, c'est ce que Jean dit, hein, c'est un bon juif, Dieu a dressé sa tente au milieu de son peuple et est venu habiter au milieu de son peuple. Bien entendu, ce terme fait allusion à la tente où Dieu habitait au milieu de son peuple d'Israël, dans le camp du désert, et qui fut rempli de la gloire de Dieu lors de son inauguration, tout comme le temple de Salomon d'ailleurs. Ce fait était donc l'accomplissement visible des promesses de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Et donc l'apôtre Jean, en disant de la parole qu'elle a habité sous une tente parmi nous, rappelle ces extraordinaires manifestations de Dieu à Israël, et les voit réalisées dans leur plénitude par l'incarnation de la parole, par le passage de notre Seigneur parmi les hommes. Jésus est donc la parole créatrice de Dieu, préexistante à toute chose et parfaitement Dieu, comme le dira le même Jean dans le prologue de son évangile. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le Christ est donc Dieu de toute éternité, mais il est distinct du Père. Il est avec le Père, mais n'est pas le Père. Il est celui qui vient dans le monde en tant que parole créatrice afin d'y créer l'homme nouveau, chacun d'entre vous, né de la parole et de l'Esprit Saint. Nous sommes nés de la parole de Dieu et de son Esprit. Jésus, en Jean 3, face à Nicodème, rappelez-vous, je crois que j'ai prêché sur ce passage. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, l'eau ici étant le symbole de la parole, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut donc comprendre que pour sauver, créer et faire naître un être de chair et de sang, à la vie de l'Esprit de Dieu qui est Esprit. Il fallait que la parole s'incarne dans la chair et le sang et qu'elle se donne en chair et en sang pour que la chair et le sang, nous héritions de la vie éternelle. Il fallait que le Fils éternel de Dieu soit fait homme. C'était le choix à faire, il n'y avait pas d'autre. Alors vous comprenez maintenant pourquoi les petits protestants que nous sommes attachent autant d'importance à la parole écrite de Dieu. C'est pour cela que nous parlons d'inhérence quand nous parlons d'inspiration de la Bible. Parce que la parole de Dieu est indissociable de son être, de ce qu'il est par nature. C'est pour ça que Paul peut affirmer dans la deuxième épître à Timothée que la parole de Dieu est littéralement spirée. C'est traduit par inspirée, mais c'est spirée, elle est le souffle de Dieu. Et de là la demande de Jésus à son Père en faveur de ses disciples. Il va demander à Dieu, à son Père, de les protéger, de les garder dans ce monde qui n'est plus le leur, de garder leur témoignage, etc. De tous ceux qui doivent croire après eux, grâce à eux. Et après tout ça, comme pour dire, c'est le moyen par lequel tu vas les garder en ce monde, il dit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Change-les, fais toute chose nouvelle en eux. Humanise-les en les divinisant par ta parole qui est la vérité et la vie de l'Esprit Saint en eux. C'est la prière de notre Sauveur et Seigneur pour chacun d'entre nous. Et je pense qu'aujourd'hui encore, lorsqu'il intercède pour nous, c'est encore et toujours sa prière adressée à son Père. La Bible est donc la vérité révélée du Dieu trinitaire, mais aussi de l'homme et de son égarement loin de Dieu, de l'amour de Dieu pour l'homme et de sa volonté divine pour sa vie ici-bas, et des promesses pour celle qui vient, parce que la véritable vie vient, mes amis, avec le royaume. Alors beaucoup de gens de nos jours sont tellement pris par leurs activités matérielles, chrétiens compris, qu'ils n'ont plus le temps, c'est ce qu'ils disent, pour ce qui est spirituel. Quand on parle de Dieu à des gens, la plupart des gens vont dire « Oh ben, j'ai pas le temps pour tout ça. » Ah, d'accord. L'éternité, c'est l'absence de temps, et c'est très long. Si on était un peu séparé de Dieu pour l'éternité, ça va être très long l'éternité. Mais ce temps, il faudrait peut-être mieux le prendre. Car ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est le pourquoi il faut vraiment s'intéresser à la vérité. À cette vérité donc que le Christ nous révèle. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est bien entendu Jésus qui parle, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité vous rendra libre. Libre de quoi ? Ça nous aidera aussi libre. Poser la question libéré de quoi, ça va nous permettre de comprendre aussi peut-être qu'il y a encore des choses dans nos vies dont on n'a pas envie d'être libéré. Bon, pour différentes raisons. Hein. Commençons par le commencement. Cette promesse est d'abord, mais vous l'aurez compris, un encouragement et constitue dans le même temps, peut-être un peu bizarrement, aussi une épreuve pour ceux qui avaient cru en Jésus. Et que Jésus distingue donc de la foule qui est présente par ces mots, « Vous, si vous demeurez dans ma parole. » Demeurez dans la parole de Jésus. Demeurer dans la parole, c'est la pratiquer, la vivre dans une obéissance persévérante. Et en vivre par l'intelligence, par la conscience et par le cœur. Il faut comprendre ces paroles. Elle doit devenir notre boussole en termes de conscience et de choix de vie. Et il faut la laisser transformer notre cœur. Et si je devais rendre par une image le sens du verbe grec « meno », hein, « demeurer », en fait je dirais que nous sommes appelés à demeurer dans la parole du Christ de la même manière que nous demeurons dans l'atmosphère qui nous environne. Et dans cette atmosphère, il y a de l'air qui est présent. Sans cet air, croyez-moi, je suis asthmatique, sans cet air, nous ne vivrions pas. Donc être en Christ, dans son univers à lui, il faut déjà y être, c'est être dans sa parole, c'est l'écouter et faire de sa présence et de sa proximité l'essentiel de notre vie. C'est ce que Paul dira aussi aux Philippiens. Tout ce que j'avais dans la vie, j'ai considéré ça comme, je vais être gentil en employant un terme, j'ai considéré tout ça comme rien. Pourquoi faire ? Afin de gagner le Christ, de gagner dans le sang, de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Autrement dit, la puissance de sa vie maintenant en moi, dans ma vie. Paul ne parle pas d'une vie après à ce moment-là, il dit sa vie puissante en moi déjà maintenant. Mais pour ça, il faut que je fasse de la place en moi, que je dégage tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui m'encombre. Je ne veux pas dire jeter les gens que vous aimez, hein, mais les aimer, comme j'ai dit en introduction, avec sa puissance de vie, à lui. Ça vous évitera d'être fâché, vous d'engueuler ceux que vous êtes supposés aimer. Ça aide hein, dans les relations. Que le Christ devienne l'essentiel de ce qui nous tient en vie. L'essentiel de ce que nous voulons vivre, tout comme l'air que nous respirons. Si telle est votre attitude, dit Jésus, vous êtes, c'est un présent, hein, vous êtes maintenant, au moment où je parle, dit Jésus, véritablement mes disciples. Vous l'êtes et le resterez, vous n'aurez pas reçu seulement une impression passagère de la parole que vous venez d'entendre. Elle restera en vous, parce qu'elle est indissociable de mon être. La vérité qui est le contenu de ma parole, dit Jésus, cette vérité qui est la parfaite révélation de l'essence de Dieu qui est amour, cette vérité que je suis moi-même et qui est en moi le rayonnement de ma sainteté, de mon être profond, cette vérité-là, et c'est la seule, hein, vous rendra libre. Quelque vérité que l'homme s'invente au quotidien, cette vérité, croyez-moi, ne le rend pas libre. Elle le enchaîne et le rend esclave toujours plus. Par contre, la vérité révélée par Dieu en la personne du Christ, cette vérité-là, elle nous rend libre de toute servitude morale, du péché, de la mort. Et elle nous rendra libre en nous ramenant à Dieu, qui est notre destination et qui est la destination de tous les hommes. Un être n'est vraiment libre que lorsqu'il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui a donnée et atteindre ainsi le but de son existence. Quand nous péchons en tant que chrétiens, ce qui nous rend malheureux, c'est que nous savons très bien que nous ratons le but. Nous sommes tombés sur le chemin et que, proportionnellement, ça va allonger un peu plus le chemin. On sait très bien que ce n'est pas la route. C'est pour ça qu'on n'est pas bien, qu'on est malheureux. Normalement. Moi, quand je lis les pères de l'Église, ils sont souvent malheureux, hein. Mais c'est parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont et de qui est Dieu. Donc en nous disant ce qu'est la vraie liberté, Jésus nous encourage à persévérer dans notre foi, mais en même temps, il met cette foi à l'épreuve et cherche à l'épurer en la débarrassant des éléments de propre justice, d'orgueil, parfois même d'espérance politique ou religieuse purement humaine, dont elle est encore trop souvent entachée, cette foi. Mais nous aborderons cette problématique la semaine prochaine. Et vous l'aurez compris, cette vérité révélée, nous en sommes les objets. C'est à nous que cette vérité est supposée s'appliquer. En premier, nous qui avons cru. Et appliquée à nous dans le sens où nous devons la vivre, afin que les hommes qui ont tant besoin de Dieu puissent trouver un signe de sa présence en ce monde, de la présence de son amour en ce monde. Ça passe par nous. J'ai déjà dit, mais c'est important de comprendre ça. Parce que si ça ne passe pas par nous, ça veut dire que sa présence réelle au monde actuel est défigurée. Que nous sommes en quelque sorte des faux témoins. Et ça ne peut pas arriver, ça. Parce que de présence, j'ai déjà dit ça aussi, mais je le répète, de présence au monde, le Christ n'a que vous, n'a que moi. Là où vous êtes, dans tout ce que vous faites. L'unique présence qu'il a, c'est vous, en tant qu'homme et femme habité par sa présence à lui. Donc à un moment, les gens devraient quand même se dire, « Ouh, machin, ça dégage. Hein. Fonctionne pas comme les autres. Hein. » C'est de cette manière-là que cette vérité avec un grand V majuscule sera proclamée. C'est le rôle principal de l'Église. Pour ça, nous sommes encore là. Donc, être authentique, c'est dire la vérité à nous-mêmes, quand c'est nécessaire, et aux autres. Mais ça, comme je l'ai dit, alors ce n'est pas pour dimanche prochain, parce que c'est Geoffrey qui animera le culte, puisque moi, je ne serai pas là. Mais ce sera pour dimanche en 8. Vous avez donc une semaine en plus pour potasser et réfléchir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.